comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à toutes. Songe ou cauchemar, dans nos rêves, il y a du bon, il y a de la terreur, du désir et parfois du mystère et de l'incompréhension. Certains ressentent des difficultés à donner un sens à ces images qui habitent nos nuits. Savoir pourquoi la violence peut être au rendez-vous, pourquoi certains rêves semblent se répéter en boucle ou d'où vient dans certains cas une forme de malaise. Comment expliquer que souvent, il est difficile, voire impossible de se souvenir de la moindre bribe au réveil. Certains déclarent même ne pas rêver, ils en sont persuadés. Pourtant, tout le monde rêve et depuis la nuit des temps, les rêves nourrissent la littérature et les arts. Certains s'essayent même à leur interprétation. Aujourd'hui, appelez-nous au numéro de Priorité Santé 33 84 22 75 75. Non pas pour une lecture de l'avenir, une prédiction quelconque liée aux rêves, mais pour nous les raconter, pour essayer de les comprendre, de savoir ce qu'ils disent de nous et tout simplement pour nous faire partager vos rêves. Tout le monde rêve, et vous, le premier, Toby Nathan, bonjour.
Pas le premier, comme tout le monde.
Mais le premier, parce que j'avoue que je parle. Vous serez le premier à en parler. Psychologue spécialisé en ethnopsychiatrie et romancier, vous avez consacré de nombreux ouvrages à ces rêves, notamment Le secret de vos rêves, publié aux éditions Odile Jacob. Et les auditeurs sont déjà nombreuses à nous avoir joints pour soumettre leurs songes nocturnes. En fin d'émission, nous vous proposons de retrouver les auteurs de l'enquête multimédia « Les morsures de l'exil », François-Damien Bourgerie, Baptiste Condominas, un web documentaire consacré aux troubles psychiques dont souffrent celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur terre. Témoignages de réfugiés, de travailleurs sociaux, de soignants, étayés par des rapports, des entretiens, enquêtes illustrées en noir et blanc, disponibles sur les environnements numériques de RFI.
Priorité santé sur RFI.
Je le disais tout de suite, Toby Nathan, tout le monde rêve, pourtant certains ont l'impression de ne jamais rêver. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
C'est parce qu'ils ne sont pas habitués à raconter leurs rêves, en fait. Il n'y a rien de spécial au fait de se souvenir ou de ne pas se souvenir. C'est soit on a été éduqué à se souvenir de ses rêves, et on s'en souvient, soit on n'a pas été habitué à ça. Et on peut se réhabituer, en fait.
Ça s'apprend.
Oui, ça s'apprend très bien. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent qu'ils ne rêvent pas au début de leur traitement. Et puis, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, eh ben, ils rêvent régulièrement parce que je leur demande. Je leur dis, de quoi avez-vous rêvé cette nuit? Et au bout d'un moment, eh ben, ça revient.
C'est davantage une question, Toby Nathan, de volonté ou de méthode?
Ni l'un ni l'autre.
Je sens que ça va être compliqué.
Non, c'est-à-dire, si ça donne quelque chose, si ça sert à quelque chose, alors on se souvient de ses rêves. Donc si vous avez quelqu'un qui est là et qui
vous
dit...
Il faut qu'il y ait une envie derrière.
Oui, c'est ça. Il faut que quelqu'un soit là et qui dise, je vais en faire quelque chose. C'est de la bonne matière. On va pouvoir travailler dessus. On va pouvoir en faire quelque chose. Et à ce moment-là, on s'en souvient. Si ça sert à rien, alors on les jette. On les met à la poubelle de notre vie, quoi, en fait.
Il y a beaucoup d'expressions du langage parlé, hein, qui emploie le mot rêver ou de bons, de mauvais rêves. Est-ce qu'on peut dire quand même, Toby Nathan, qu'il y a de mauvais rêves, des rêves qui nous font du mal?
Oui, alors, je vais vous répondre à votre question en deux parties. La première partie, c'est de dire, d'abord, il y a beaucoup plus de mauvais rêves que de bons rêves. C'est-à-dire que la plupart des rêves, enfin pas la plupart, mais disons 70% des rêves sont des rêves d'angoisse, en fait. Hein. Il y a des raisons à cela. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais rêves, mais ce sont des rêves d'angoisse. C'est-à-dire que pendant le rêve, on se sent pas bien, mais après, quand on se réveille, ça fait du bien, en fait. Et parce que dans le rêve, en fait, on s'entraîne à subir des choses difficiles qu'on va subir dans la vie. C'est une sorte d'entraînement. Et puis, il y a des rêves qui sont des mauvais rêves, c'est-à-dire des rêves qui produisent de la maladie ou qui produisent de la douleur. Et je pense vraiment qu'il y a des rêves... On appelle ça dans notre jargon des rêves pathogènes, c'est-à-dire des rêves qui sont à l'origine de douleurs. On ne sait pas très bien si le rêve traduit une maladie qui commence, ou bien est-ce que c'est le rêve lui-même qui produit la maladie? Mais il y a des rêves qui sont des mauvais rêves.
Oui. Et on peut travailler dessus justement pour essayer de s'en débarrasser, soigner de ces mauvais rêves, de leur influence.
Oui, oui, bien sûr. Et il y a même certains médicaments dans des cas de dépression très grave, qu'on appelle la mélancolie. Dans ces cas-là, il y a certains médicaments qu'on donne qui suppriment les rêves, hein, parce que les rêves font du mal à ce moment-là. Et donc, en général, les rêves font du bien, mais certains rêves sont des rêves pathogènes.
Alors, on va prendre bien sûr nos auditeurs en ligne, mais juste avant de leur donner la parole, une question assez simple, est-ce qu'il y a des petits conseils naturels assez simples pour, en fait, bien rêver et surtout bien dormir, Toby Nathan?
Oui, alors, non, d'abord, bien rêver, je sais pas, on dit qu'il faut pas dormir sur le dos, par exemple, on dit qu'il vaut mieux dormir sur le côté pour rêver, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont des traditions, en fait. Et quand on fait les choses qui correspondent à notre tradition, en général, on obtient des rêves parce qu'on est en conformité avec la pensée ambiante. Alors moi, il y a un conseil, évidemment, c'est de mettre à côté de son lit un petit calepin avec un crayon pour se dire qu'on va noter son rêve. Même si on le note pas, eh ben ça nous incite à prêter attention au rêve. Et le calepin et le crayon, même s'il se remplit jamais... Il invite le rêve, oui.
Toby Nathan, ils attendent au numéro de priorité santé au 33 84 22 75 75. On prend tout de suite en ligne nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Et elle est en ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est Balkis. Bonjour Balkis.
Bonjour Caroline. Bonjour Toby Nathan.
Bonjour.
On vous écoute Balkis. Racontez-nous votre rêve.
D'accord. Il y a un rêve que je fais de manière récurrente. J'ai dû le faire 5 ou 6 fois avec toujours le même scénario. Je me vois en train d'assister à mon mariage. Je vois les gens s'affairer autour de moi, mais je ne connais pas le mari. Et c'est toujours un mariage qui se fait malgré moi. Il y a une lourdeur dans le cœur, dans la poitrine. Et c'est très angoissant, en fait. Je me marie, mais je ne suis pas pour. Et ce que je retiens aussi de ces rêves, c'est qu'ils n'ont jamais été consommés, en tout cas, dans les rêves. Donc c'est la récurrence de ce rêve-là qui me fait me poser des questions, en fait.
Pour bien vous comprendre, Balkis, on a bien compris, vous n'êtes pas mariée, donc c'est quelque chose que vous imaginez dans votre futur, dans votre rêve.
Voilà, c'est ça.
Et à cause de ce rêve, est-ce que vous avez des inquiétudes particulières?
Voilà, je me demande, est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte prémonitoire? Est-ce que je ne serais pas à un moment donné être contrainte de rentrer dans un mariage, soit une pression sociale ou encore même une pression mystique, en fait? Je me pose des questions.
Toby Nathan.
Alors, juste une question à Balkis. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Balkis?
31 ans.
Ah, vous avez 31 ans. Donc, il est temps de se marier quand même.
Tout à fait, j'y pense.
On se marie quand on veut, Toby Nathan.
Non, mais bien sûr. Non, bien sûr.
On peut même se remarier.
Mais bien sûr. Bien
jusqu'à la fin des temps.
Je veux dire, il y a. Qu'il y ait une pression.
La pression familiale, c'est quelque chose qui arrive souvent.
Je pense que ça fait partie de la vie. Il y a des affaires, il y a dans votre famille, il y a des gens qui vous pressent de vous marier?
Oui, bien sûr, tout le monde.
Ah, tout le monde.
C'est ça.
Tout le monde. Et il y a beaucoup de candidats, j'imagine.
Oui. J'ai dit effectivement beaucoup de noms, en fait, dans ma vie. Et ça a tendance à les énerver. Ils trouvent que je trie trop.
C'est ça. Vous avez beaucoup dit non, quoi. Hein. Et il y a certains de ceux-là qui sont particulièrement attachés à ce mariage. Il y en a qui prennent des moyens détournés pour vous obtenir. Non, c'est pas ça?
Ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, mon cœur n'a jamais flanché, en fait.
Ah, donc, c'est ça.
Quand je dis non, c'est non. C'est pas sous l'effet de la fantaisie que je dis non. C'est que je le sens pas, en fait.
Mais vous êtes une très jolie femme, non?
Ok, les gens le disent, oui.
Oui, c'est ça, hein, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. C'est-à-dire, vous êtes une très jolie femme, vous êtes très attirante, il y a plein de candidats, et vous n'avez pas trouvé votre bonheur là-dedans, c'est ça?
C'est ça, oui.
C'est ça, hein. Et il y a certains, peut-être un, qui est en train de faire pression et qui s'est faufilé dans vos rêves, en fait. Hein. C'est quelque chose comme ça?
Ben, je ne sais rien, parce que je ne connais jamais l'identité de la personne.
Ouais, mais vous soupçonnez quelqu'un?
Plus maintenant.
Ah, plus maintenant?
Oui.
Vous avez soupçonné quelqu'un?
Oui, oui.
Ah, d'accord. Et, dites-moi, il y a aussi une histoire de famille. Vous êtes originaire du Mali, c'est ça?
C'est ça, oui. Comment vous avez su?
Ben, c'est marqué sur l'affiche, alors.
Il lit pas. Non, heureusement, sinon on l'aurait pas su. Hein. C'est parce que c'était marqué quand on a préparé l'entretien. On vous a posé la question ou vous l'avez dit par vous-même?
Ben oui.
D'accord.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous êtes né au Mali, c'est ça?
Non, juste d'origine malienne.
Ah, c'est ça, c'est vos parents qui sont maliens. Quoi, Bamana?
C'est ça, oui.
Ah, d'accord.
Ça, c'était pas marqué, hein, ça, je vous le dis. Hein.
Ah, oui, parce que je me souviens pas avoir dit tout ça.
Non, ça, vous l'avez pas dit.
Et votre famille, au Mali, a aussi des désirs pour vous, non?
Oui, oui.
Non, la famille du Mali, je veux dire. Parce que il y a des origines, il y a un village, j'imagine, non? Au Mali, vous venez?
Il y a un village, mais on n'est pas forcément très attaché, parce que, en fait, les parents aussi ont vécu ici.
À Abidjan?
Mais oui, à Abidjan. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la famille, mais c'est un peu la famille éloignée quand même.
C'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est ce que je sais, moi, il y a certaines personnes dans une famille, certains enfants, qui sont appelés par les ancêtres, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça. Vous savez ça?
Non.
Non, bon, d'accord. Bon, alors, je crois que... à part ça, vous avez... Vous avez fait des études, c'est ça? Vous avez fait des études?
C'est ça, oui.
Et vous avez... un travail, vous travaillez?
Pas en ce moment.
Ah, pas en ce moment.
Mais oui, oui.
Mais vous avez une profession.
C'est ça, oui.
Hein, c'est ça, vous avez une profession. Et donc, normalement, vous devriez aller plus loin que vos parents, c'est ça?
C'est ça.
C'est ça, hein?
Exactement.
C'est ça. Bon. Alors, écoutez, comment faire pour ce rêve? Vous dites, vous le faites souvent, hein?
J'ai dû le faire 5 fois ou 6 fois, voilà, à peu près.
D'accord. Bon, si je vous donne un conseil... un peu farfelu, vous le ferez?
J'en sais rien.
Alors voilà la sagesse, Balkis, très sage. On écoute ce conseil farfelu, Toby Nathan.
Ouais. Un jour, Abidjan, il fait souvent du soleil.
Oui, il fait très chaud en ce moment, d'ailleurs.
Il fait très chaud. Eh ben, un jour où il fait grand soleil, comme ça, le matin, tôt, vous allez au bord de l'eau, à la mer, par exemple, et vous racontez votre rêve. À haute voix. Vous savez faire ça?
On verra.
Ouais. Et vous allez voir, et vous crachez dans l'eau. Et puis, vous repartez sans vous retourner. Ça va, vous pouvez faire ça. Et vous allez voir que le rêve, il va s'arrêter.
Ok.
Ok? Ben, c'est pas grand-chose à faire.
Il faut trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde autour.
Non,
c'est la seule condition.
Si vous êtes très tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Au bord de l'eau.
Effectivement. Bah, ouais, ouais.
Et vous pouvez faire ça.
D'accord. Je ne sais pas encore, mais je vais bien étudier.
Et vous faites étudier la question, et puis vous mettez un petit mot sur le site des RFI, et vous me dites si le rêve est parti. D'accord? Je suis sûr qu'il va partir, parce que la personne qui vous poursuit, parce qu'il y a un amoureux là qui vous poursuit, la personne qui vous poursuit, elle sera identifiée à ce moment-là.
Voilà ce conseil de Toby Nathan Balkis. Très bonne journée à vous à Abidjan. On va partir tout de suite pour Dakar.
Je suis sûr qu'elle m'a compris.
Je suis sûr qu'elle vous a compris. Ouais. Maintenant, c'est son libre arbitre.
Voilà, exactement.
On va rejoindre tout de suite Mona qui est en ligne de Dakar. Bonjour Mona.
Bonjour Caroline.
On vous écoute. Toby Nathan est à votre écoute pour nous raconter votre rêve.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Toby Nathan.
Bonjour.
J'ai fait souvent ce rêve, à savoir être dans une île et je vois une grosse vague qui arrive vers moi. J'ai vraiment peur, mais bon, la vague ne m'atteint pas. Donc je reste sur le banc de sable. Mais ce rêve revient très souvent. Donc je ne comprends pas tellement. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu, ou bien que vous m'éclairiez un peu, s'il vous plaît.
Dites-moi, je peux vous demander quel âge vous avez, Mona?
J'ai plus de 50 ans.
Plus de 50 ans, oui. Vous êtes mariée, oui. Vous avez des enfants, j'imagine?
Non, pas encore.
Ah, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfants?
Non.
Comment ça se fait?
Ben, je ne sais pas.
Ah, mais c'est de votre volonté ou c'est les hasards de la vie ou quoi?
Oui, disons les hasards de la vie.
Ça s'est pas présenté, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça? Ah, d'accord.
Oui, c'est ça.
Et moi, je pense que ce rêve dit que vous avez du mal à vous endormir. Est-ce que c'est vrai?
Oui, quelquefois, oui.
C'est ça, hein? C'est parce que ce rêve traduit la difficulté d'entrer dans le sommeil. Parce qu'il décrit, vous êtes quelqu'un de très sensible, je pense, et il décrit les mécanismes même du sommeil. C'est-à-dire que le sommeil arrive comme ça et il vous envahit, c'est comme une vague, quoi. Or là, dans le rêve, la vague arrive et elle ne vous atteint pas. Et c'est pour ça que je pense que vous avez beaucoup de mal à vous endormir et que c'est vrai, hein, c'est ça. Hein.
Oui.
Et parce qu'il y a des choses, des idées qui vous travaillent. Et je pense que ces idées sont autour du mariage et de l'importance de cette chose-là.
Oui, il y a de cela.
Oui.
Il y a aussi l'autre aspect du rêve, je tombe assez souvent d'une hauteur.
Ouais.
Mais je monte, la première fois que j'ai fait ce rêve, j'étais en cinquième au lycée.
Oula, c'est vieux, hein?
Oui, c'est vraiment vieux.
Ouais.
Je suis montée sur une antenne hertzienne dans le rêve.
Ah oui.
Et avant d'arriver au bout, je suis retombée.
Ah d'accord. Et vous n'êtes pas...
Voilà, et ça fait à peine 2 semaines que j'ai refait ce même rêve.
Ouais.
Et je suis tombée vraiment par terre là. Et ça, j'avais mal.
Ah, vous aviez mal dans le rêve?
Oui, j'avais mal dans le rêve. Parce que je suis tombée vraiment à terre.
Ah, vous êtes tombée à terre. Ah, mais ça, je pense que ça fait référence à des choses qui vous sont arrivées dans la vie, hein, je crois. Hein.
Oui, certainement, je me suis dit, mais j'aimerais quand même en parler, parce que je n'en ai jamais parlé.
Ah, d'accord. Du rêve ou des choses qui vous sont arrivées?
Bon, en même temps, du rêve et des choses qui me sont arrivées aussi, je n'en parle pas souvent.
C'est ça. Je pense qu'il vous est arrivé quelque chose un peu difficile, quoi. Et je pense qu'il va falloir trouver une oreille attentive pour ça.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas comment vous conseiller. Vous avez peut-être quelqu'un qui est un bon conseiller auprès de vous ou vous n'avez confiance en personne?
Bon, jusque-là, je ne trouve pas.
Ah, c'est ça. C'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Bon. Ben, moi, je ne sais pas comment vous dire, mais ça serait bien de pouvoir raconter cet événement douloureux qui vous est arrivé à quelqu'un, et pour en faire quelque chose, quoi.
Oui, certainement. Je ne sais pas. Et puis, il y a aussi l'autre aspect, c'est...
Dites-moi.
Je fais des rêves où j'entre dans une église, j'allume des bougies, je trouve les gens en train de faire la messe.
Ouais.
Ou bien il y a une veillée d'une personne morte, on allume des bougies, tout cela, je ne comprends pas. Je prends des chemins arides.
Vous êtes chrétienne?
Oui, oui.
Vous êtes chrétienne, à Dakar?
Oui, à Dakar, oui.
Et il n'y a pas beaucoup de chrétiens à Dakar.
Oui, il y en a quelques-uns quand même.
Il y en a quelques-uns.
Oui.
Ouais. Bon, mais vous êtes chrétienne de tradition ou vous êtes convertie?
Non, pas convertie, de tradition.
De tradition chrétienne, ancienne, quoi.
Oui, 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 ancienne.
Bon, alors... Je pense que vous êtes un peu triste dans la vie, hein, je trouve. Hein.
Oui, hein. Certainement.
Bon, il est indispensable que quelqu'un s'occupe de vous.
Ah bon?
Ouais.
Trouver une oreille, quelqu'un de confiance à qui vous confier, Mona.
Ouais, ouais.
Oui, oui.
Ouais, mais ça, vous le savez, ça. Hein. Mais en tout cas, vous êtes super sympa.
Merci. Je tenais vraiment à vous parler de mon rêve. Quoi, j'ai dit, bon, il faut que j'en parle.
Mais ouais, ben, c'est une bonne chose. Vous l'avez fait. Maintenant, il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse écouter votre douleur.
Un petit peu plus que les minutes qu'on consacrées. Nous, on vous a donné un petit peu de temps. Il faut plus de temps pour vous maintenant, Mona.
Parce que moi, j'ai bien envie de l'écouter, mais on a d'autres personnes à écouter aussi.
Absolument. Mona, on vous souhaite le meilleur. Très bonne journée pour vous à Dakar. On va prendre tout de suite la direction du Tchad de Moundou, où nous sommes en ligne avec Aimé. Bonjour Aimé.
Oui, bonjour Caroline.
Toby Nathan vous écoute. On écoute tout de suite votre rêve.
Merci. Bonjour Toby.
Bonjour.
Oui, moi je rêve souvent. Et dans mes rêves là, je constate souvent qu'il y a quelque chose comme une personne qui rentre dans ma chambre et il cherche à m'étouffer. Et quelquefois je crie, je fais des mouvements. Et ça va durer avant que je me retrouve, soit je me réveille. Et là, s'il y a quelqu'un auprès de moi, une personne avec moi, avec qui on dormait, quand je me réveille, je demande à la personne, mais c'était là, je fais des mouvements, je crie. La personne dit que non, je n'ai rien entendu. Donc, et je ne sais pas, je vais vous demander qu'est-ce que c'est. Pourquoi c'est rêve.
La ligne s'est dégradée. Je vais essayer de reprendre un petit peu ce que vous nous avez dit, Aimé. Vous êtes allongé, vous rêvez vous-même que vous dormez et vous sentez comme une intrusion dans votre chambre, quelqu'un qui vous attaque, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
C'est bien ça. Toby Nathan, qu'est-ce que vous pouvez dire à Aimé ou lui poser davantage de questions sur ce rêve ?
D'abord, je voudrais savoir son âge, quel âge a Aimé ? Est-ce qu'il pourrait me dire quel âge ?
J'ai 26 ans.
26 ans.
Donc vous êtes jeune.
Oui, oui, c'est un jeune, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme qui commence dans la vie, quoi. Hein. Et vous avez fait des études ?
Oui, j'ai fait des études. À l'université.
Vous êtes à l'université, hein, c'est ça. Et vous êtes à quel niveau à l'université ?
Niveau 1.
Niveau 1, d'accord. Donc vous commencez vos études à l'université, là.
Aimé, vous êtes avec nous ? Oui. Toby Nathan, vous demandez si vous étiez en train de commencer ces études.
Oui, oui, je suis en train de commencer.
Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est un rêve c'est des rêves d'étouffement, hein, c'est bien ça, hein ?
Oui, oui.
C'est des rêves d'étouffement et vous réveillez, vous avez l'impression quand vous vous réveillez que vous êtes paralysé ?
Oui, oui, c'est ça, exactement.
C'est ça, que vous êtes paralysé, qu'il y a quelque chose comme si quelque chose vous tenait les bras, les jambes, que vous ne pouvez pas les bouger, et que vous avez peur, hein, c'est ça ?
Exactement.
Exactement, c'est ça. Bon, alors,
oui.
Ce sont des rêves...
D'angoisse ?
Ouais, enfin, c'est aussi des rêves, parce que, il se réveille au mauvais moment, quoi. Que le rêve n'est pas terminé, en fait, quand il se réveille. Il se réveille trop tôt parce que le rêve l'inquiète, en fait. Hein. C'est comme ça. Bon, en tout cas, pour un rêve comme ça, vous êtes chrétien ou musulman ?
Je suis chrétien.
Vous êtes chrétien. Vous allez à l'église ?
Oui, je pars à l'église.
Ouais, vous allez à l'église, hein. Bon, je veux dire, c'est des rêves, on peut les éviter si on se prépare avant de dormir, quoi. Il faut se préparer avant de dormir. Parce que c'est des choses qui viennent vous embêter dans vos rêves et qui vous empêchent d'accomplir votre sommeil normalement. Et on peut les éviter avant de dormir en demandant quelque chose aux rêves. Alors, je crois que vous avez des ambitions universitaires, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et que vous avez des gens qui sont jaloux de ça, j'imagine.
Probablement.
Hein ? Beaucoup, hein, beaucoup. Hein, beaucoup, beaucoup, hein. Alors, avant de dormir, vous allez demander aux rêves qu'ils lèvent la jalousie. Vous savez faire ça? Avant de dormir, vous allez vous adresser à votre rêve avant de dormir. Vous allez lui dire qu'il lève la jalousie. Voilà, comme ça, cette phrase-là. Vous savez faire ça?
Oui.
Eh bien, vous allez voir que l'étouffement va disparaître.
D'accord.
D'accord? Et puis, vous me mettrez un mot sur le site de RFI?
Pour savoir si on vous a laissé tranquille pendant ce rêve,
exact,
et que vous avez pu bien dormir, vous reposer pour être sur pied, pour étudier correctement.
Exact.
Ce qui est très important. On vous souhaite le meilleur et mes très bonnes journées à Mundu. On va poursuivre cet échange avec les auditeurs de Priorité Santé en restant d'ailleurs au Tchad, puisque on part pour Kira avec Mustapha. Bonjour Mustapha.
Bonjour Kalori.
On vous écoute Mustapha.
Merci. Je disais quand souvent je dormais la nuit, je rêvais que je me bagarrais avec des personnes étrangères, parfois par des animaux. Et le matin, je me trouve des traces de sang sur mon corps. Et durant tout au long de la journée, je me sens la fatigue. Alors, ma question est de savoir pourquoi je rêvais souvent de ce genre de choses et comment faire pour arrêter.
Quand vous dites, Mustapha, que vous avez des traces sur votre corps, ça veut dire que vous avez vraiment des blessures, des marques de ces luttes quand vous vous réveillez le matin sur vous?
Quand je me réveille le matin, je ne vois pas des traces de blessures, mais seulement que des traces de sang sur mon corps.
Toby Nathan, je vous laisse échanger avec Mustapha. Moi, je n'ai rien à dire, j'écoute. J'écoute.
Bon, d'abord, je voudrais connaître l'âge de Mustapha. Quel âge avez-vous, Mustapha?
J'ai 26 ans.
Vous avez 26 ans. Vous êtes étudiant?
Oui.
Vous êtes allumé?
Oui,
à l'université.
Deuxième année. Oui.
L'université, comment vous avez dit?
L'université d'Abéché.
Abéché.
Abéché. Et vous êtes étudiant dans quelle discipline?
Bon, je suis en lettres modernes, filière.
Vous êtes en lettres modernes. Et vous êtes avancé dans vos études ou vous êtes en quelième année?
Pardon?
Vous êtes en quelième année d'études?
À quel niveau d'études? Combien d'années derrière vous déjà?
Ouais, deuxième année.
Deuxième année d'études, d'accord. Et oui. Comment je crois que vous avez des soucis avec des gens de la famille, non?
Oui, certaines.
Certaines personnes de la famille, hein. Je crois qu'il y a des gens dans la famille qui sont jaloux de vous.
Oui.
Vous savez qui c'est?
Telle que ma tante, ça fait depuis que j'ai obtenu mon baccalauréat, elle ne se parlait plus avec moi. Donc,
c'est ça.
Elle est restée comme ça.
C'est ça. C'est votre tante? C'est votre
oui,
tante?
C'est ma tante.
Ou c'est vraiment votre tante, la sœur de votre mère ou de votre père?
La sœur de ma mère.
La sœur de votre mère. Elle n'a pas, elle a pas d'enfant, elle?
Non.
Elle n'a pas d'enfant. Bon, d'accord.
Non.
Donc c'est ça. Eh bien, écoutez, vous allez peut-être vous protéger avant de vous coucher, non? C'est possible, ça?
Oui.
Des fois,
je faisais la prière.
C'est ça.
Je faisais la prière avant de dormir.
C'est ça. Vous la faites plus?
Pardon?
Vous faites plus la prière avant de dormir?
Non.
Pourquoi?
Moi, je ne sais pas.
Ouais, mais je sais, moi, pourquoi, moi. Parce que vous avez fait des choses que vous vous reprochez, vous vous dites que vous n'êtes pas pur pour faire la prière, c'est ça?
Oui.
C'est ça, hein. Bon, eh ben écoutez, il faut vous laver et faire la prière avant de dormir. Et puis vous allez voir les choses, parce que il y a des gens qui vous dérangent dans votre sommeil. Donc préparez-vous avant de dormir. Vous comprenez ce que je dis?
Oui, je comprends.
Voilà, je crois que je vous ai répondu, Mustapha. Et je vous souhaite bonne chance et beaucoup de réussite dans vos études.
Et moi, je vous souhaite aussi bonne nuit, qu'il y ait un peu de calme qui revienne dans vos nuits pour vous réveiller en pleine forme, justement, pour réussir ces études. Très bonne journée à Kira. On continue en rejoignant tout de suite le Togo, hein, Lomé, où nous sommes en ligne avec Kevin. Bonjour, Kevin.
Oui, bonjour.
Bonjour, Kevin.
Toby Nathan, oui, vous écoute, on écoute votre rêve.
Oui, bonjour.
Au fait, bon, j'ai fait des rêves récurrents, harcèlement sexuel de la part de mes demi-frères. Le premier rêve qui m'a un peu choqué, qui me tourmente jusqu'à aujourd'hui, c'est que je remarque que ma partie intime sont excisées, c'est-à-dire là où loge les testicules. Comment opérer à ce niveau. Et donc, dans le rêve, c'est mes frères et mes demi-sœurs que je vois m'entourer. Et je me suis réveillé, je n'ai plus sommeil. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi ce genre de rêve et que faut-il faire aussi pour essayer de combattre tout ça, ou bien de limiter ce genre de trucs.
Kevin, le deuxième rêve, oui, excusez-moi, si je comprends bien, vous êtes mutilé sexuellement pendant votre rêve,
voilà,
avec
voilà,
des proches autour de vous qui observent ça ou qui participent
voilà,
directement.
Je me suis rendu compte que c'est eux qui l'ont fait.
C'est eux qui l'ont fait, d'accord.
Oui.
D'accord. Je pense qu'il y a déjà pas mal de questions à poser, Toby Nathan, si vous avez...
Non, juste, je voudrais savoir l'âge de
Kevin.
Kevin, ouais.
Et Kevin a actuellement 42 ans.
42 ans.
Vous avez 42 ans et vous êtes marié, vous êtes installé dans la vie?
Non, je ne suis pas encore marié.
Vous n'êtes pas encore marié.
Dans les jours à venir.
Ah, bientôt là?
Oui.
Ah, bientôt. Et vous avez un job, vous travaillez vous...
Ben oui, un petit job.
Un petit job, pas quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes à Lomé, hein, c'est ça?
Oui, je suis à Lomé.
Vous êtes Mina?
Non.
Vous êtes d'où? Vous êtes d'où?
Je suis du Nord, c'est d'où, du Salut.
Du Nord? Quelle langue vous parlez?
Nous parlons la langue Naouda.
Ah, Naouda. Et c'est tout au nord, quoi. Hein?
Oui.
D'accord. Mais vous vivez à Lomé, hein? Allô?
Oui.
Vous vivez à Lomé?
Oui, je vous écoute.
Je crois qu'il n'entend pas très bien. Alors donc, le rêve, j'ai l'impression que votre rêve, il y a plusieurs choses dans votre rêve. Il y a des gens qui vous reprochent. Je peux vous parler franchement?
Oui.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous reprochent que vous avez des tendances sexuelles anormales?
Non.
Personne ne vous reproche ça?
Non, pas du tout.
Ah, d'accord. Mais est-ce que vous avez ça vous avez pensé des choses comme ça?
Non, je n'ai pas encore eu cette idée.
Ah non, d'accord, vous n'avez pas eu cette idée. Ok, d'accord. J'ai une autre question à vous poser, si vous me permettez.
Oui.
C'est comment vos demi-frères, vos demi-sœurs sont en concurrence avec vous? C'est-à-dire, il y a un héritage de votre père et que cet héritage, il est discuté entre les différentes mamans?
Non, il n'y a pas d'héritage en tant que tel. Parce que papa ne vit pas, mais il n'avait pas grand-chose aussi.
Il n'avait pas grand-chose. Donc, c'est pas des histoires de famille comme ça.
D'accord.
C'est pas des histoires de famille. Alors, je me demande bien qu'est-ce que c'est que cette affaire, parce que il y a des tentatives de viol, hein, c'est bien ça?
Effectivement, c'est ça, oui.
C'est ça, hein. C'est des tentatives de viol dans les rêves.
Oui, c'est ça.
Dans les rêves.
Justement, c'est les mêmes personnes que je vois tout le temps.
Et par des hommes?
Il y a une fois, l'homme a apparu, mais souvent c'est des femmes, c'est des demi-sœurs. Quoi.
Ah, c'est des demi-sœurs.
Oui.
Bon, mais vous les aimez bien, vos demi-sœurs?
Sincèrement parlant, il y a une distance entre nous.
Une grande distance. Elles sont restées au village, elles, là-haut dans le nord?
Non, elles sont là.
Elles sont à Lomé. Mais il y a une dispute entre les demi-sœurs et les demi-frères, c'est ça?
Bon, disons une guerre froide comme ça, mais bon.
Une guerre froide. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un conseil. Hein. Excusez-moi de vous parler franchement comme ça. Je vais vous donner un conseil. Pour votre mariage, il faut vous débrouiller pour inviter tout le monde.
D'accord.
Vous comprenez ce que je dis?
D'accord.
Est-ce que vous aviez prévu, Kevin, justement, d'inviter ces personnes
non,
avec qui vous êtes en
petit
froid?
Non, il n'avait pas prévu.
Je ne l'ai pas prévu.
Eh ben oui.
Donc, il fallait imprimer des nouveaux cartons d'invitation.
Voilà, voilà, c'est ça. Bonne journée, Kevin.
Très bonne journée à vous. On va prendre un tout dernier auditeur, mais je vais vous demander, Toby Nathan, de faire un petit peu court, parce qu'on a encore. Je sais bien que c'est impossible.
Je suis pas un devin. Hein.
Mais moi non plus.
Ah bon,
mais je vous demande juste donner la parole à Clovis de Brazzaville, d'accord, si c'est possible. Mais juste parce que après, on a encore un ou deux petits sujets à traiter pour que tout puisse rentrer dans ces 50 minutes, même si c'est pas mal de temps. On est toujours un petit peu court. Clovis n'est plus en ligne avec nous. Clovis qui voulait nous raconter son rêve et qui était en ligne de Brazzaville. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder notre deuxième sujet. Mais vous restez avec nous, Toby Nathan, parce que je vais vous demander justement tout à l'heure si vous avez un mot à dire sur ce fameux deuxième sujet dont on parle tout de suite dans Priorité Santé. Ce sujet, eh bien, c'est en fait le titre, Les morsures de l'exil, le titre d'une enquête qu'on retrouve depuis quelques jours sur les environnements numériques de RFI. On va bien sûr mettre le lien sur le site de Priorité Santé. Ces morsures, ce sont les troubles psychiques dont souffrent celles et ceux qui ont été contraints de fuir leur lieu de vie, leur terre. Et pour en parler avec nous, François Damien Bourgerie, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et Baptiste Condominas, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes les deux auteurs de ce web documentaire, enquête en trois chapitres. François Damien Bourgerie, on va commencer par décrire ce projet. Qui témoigne, qui raconte dans ce web documentaire ?
Alors, ce sont des psychologues, des psychologues du centre Primo Levi et du COMET principalement. Le centre Primo Levi, c'est un centre basé à Paris qui accompagne les victimes de violences politiques dans leur pays d'origine, et enfin qui ont été victimes de violences dans leur pays d'origine et qui les accompagnent sur un plan médico-social et psychologique. Et le COMED, c'est un centre qui fait à peu près le même travail, qui lui est basé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en banlieue parisienne. Et puis on a rencontré aussi des exilés qui sont arrivés il y a plus ou moins longtemps en France et donc qui nous racontent ces souffrances qui continuent à se manifester même des années après leur arrivée en France et les tortures qu'ils ont pu subir dans leur pays d'origine.
Comment est-ce que vous êtes réparti le travail entre vous deux ? Ça a été tout en commun ou chacun avait vraiment son domaine de compétences, son domaine de travail ?
Alors on a réalisé toutes les interviews ensemble. Et ensuite, moi, je me suis occupé du texte et Baptiste du dessin.
Alors, des illustrations, justement, Baptiste Condominas, noir et blanc, un trait assez, je dis grossier, mais pas dans le mauvais sens du terme, un terme plutôt abrupt, brutal. Ça représente justement ce que vous avez entendu à travers les différents entretiens.
Disons c'est effectivement ce qui ressortait souvent à la fois de ce que disaient les psychologues et les exilés eux-mêmes, des cauchemars, des hallucinations, des souffrances psychologiques, psychiques qui nous racontaient. Et que c'est venu assez naturellement quand j'ai dessiné. Ça me semblait être le trait le plus, finalement, le plus adéquat pour représenter ce qui se passait dans leur tête, souvent.
Qui collait le plus à la nature de ces récits. François-Damien Bourgerie, justement, vous donnez, on l'a compris, la parole aux personnes blessées, mais également à celles qui les prennent en charge. Est-ce qu'on sent, justement, que ce récit, il a aussi un impact sur le ressenti de celles et ceux qui soignent, de celles et ceux qui prennent en charge ?
Alors, on ne leur a pas posé la question. Donc c'est difficile, c'est difficile à dire.
Mais dans la façon dont ils racontent les choses, justement, est-ce qu'il y a une véritable distance par rapport au récit de souffrance des autres, ou est-ce qu'il y a une façon d'intégrer aussi, et est-ce que d'une certaine manière, ce que vous avez entendu vous a étonné de par la violence de ce récit ?
Oui, parce que on connaissait assez mal le sujet avant de s'en emparer. Et c'est vrai que les symptômes qui sont décrits par les psychologues sont très très spectaculaires. Il y a les rêves notamment, les cauchemars, et puis il y a les reviviscences. C'est peut-être le symptôme le plus spectaculaire. Ce sont comme des cauchemars réveillés. Ce sont des personnes qui se promènent dans la rue ou qui sont dans les transports et qui d'un coup, il y a un élément déclencheur qui les plonge dans l'endroit où elles ont subi les tortures. des prisons, par exemple, et là, tout ressurgit. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être dans cette prison. Elles y sont, en fait. Elles ressentent les tortures, elles entendent les cris des prisonniers, les bruits des grilles, et vraiment les tortures qu'elles ont subies. Et un psychologue nous parlait aussi d'une dame qui avait l'impression que les tortures qu'elle avait subies était gravé à l'intérieur de ses paupières. Et aussi un enfant qui avait été témoin de violences subies par ses parents et qui, lorsqu'il se trouvait en leur présence, était pris d'un strabisme divergent, comme si son corps essayait de le protéger de ses souvenirs terrifiants.
Stress post-traumatique, manifestation physique de cette souffrance, Toby Nathan, ces troubles, ils ont longtemps occupé le cœur de votre activité. C'est quelque chose forcément qui vous parle.
Oui, bien sûr, oui. C'est des choses qu'on connaît, et bon, alors c'est pas seulement parce que c'est des exilés, hein, c'est parce que c'est des gens qui ont été torturés, en fait, hein, mais l'exil s'ajoute à ça. Alors, j'imagine que ce que vous décrivez, ça se passe dans le métro, parce que le métro, on est enfermé dans le métro, et que c'est ce qui redéclenche les reviviscences en question, et que, en effet, c'est des... ça fait partie des symptômes de ce qu'on appelle les stress post-traumatiques, les états de stress post-traumatique. Mais je dirais que la part la plus importante de ça, c'est est-ce qu'ils sont tirés d'affaires. C'est-à-dire que on peut soigner des gens de cela, des états de stress post-traumatique, si on est sûr qu'ils ne vont pas replonger dans l'affaire. Est-ce qu'ils continuent d'être poursuivis alors qu'ils ont quitté le pays? Est-ce que il y a des gens qui sont après eux et qui les pourchassent? Est-ce qu'ils risquent d'être renvoyés dans ce pays parce qu'ils ils n'ont pas le statut de réfugié politique? Et c'est ce qui prédétermine le fait que les troubles perdurent, en fait. Les troubles peuvent s'améliorer s'ils sont certains qu'ils ne seront pas remis dans la même situation.
Un besoin de sécurité. François Damien Bourgeret, justement, vous parlez des souffrances, bien sûr, du départ, de l'exil, aussi la dureté des conditions d'accueil. Vous abordez, justement, ce côté de la reconstruction, mais on sent quand même, malgré tout, l'incertitude qui est là, parce qu'on va dire que le pays d'accueil ne leur facilite pas du tout les choses.
Oui, c'est vrai que c'est un facteur aggravant, voire déclencheur de ces troubles psychiques. L'incertitude face à sa condition administrative, et notamment le passage devant l'OFPRA ou la CNDA qui statue sur les demandes d'asile. Selon les psychologues que nous avons rencontrés, c'est vraiment le moment où... où les troubles sont les plus vivaces, parce qu'ils sont amenés à se souvenir des violences qu'ils ont subies, et elles ressurgissent, voilà. Et donc c'est très violent pour ces personnes.
Est-ce que ces personnes ont vu votre travail, Baptiste Condominas, par exemple les illustrations? S'il n'y a pas forcément la langue française, la langue de lecture, ça peut compliquer les choses. Mais est-ce que ces illustrations, par exemple, ils en ont dit quelque chose?
Alors, on n'a pas eu de retour sur les exilés eux-mêmes, notamment parce qu'on en a rencontré certains à Calais qui étaient sur le parcours d'exil. Mais les psychologues qu'on a rencontrés et certains exilés qui ont lu le sujet ont trouvé, en tout cas, ont eu des échos sur ces images où ils nous ont dit que c'est ce qu'ils ressentaient, que c'était que ça traduisait très bien un état. Et l'état qu'ils pouvaient ressentir parfois, et qu'ils avaient ces sentiments, et que ces illustrations reflétaient assez bien ces troubles, ces souffrances. Donc même si on n'a pas eu un retour des exilés eux-mêmes qu'on a interrogés, on a eu un retour d'exilés qui ont eu ces souffrances ou qui les ont encore aujourd'hui, et qui nous disent qu'ils s'y retrouvent beaucoup.
François-Damien Bourgeret, justement, quand vous avez recueilli cette parole, est-ce que vous y avez vu une sorte d'effet thérapeutique, ou comme ce dont vous venez de nous parler, le fait de reformuler, c'est un peu se replonger une nouvelle fois dans sa souffrance? Qu'est-ce qu'on fait en même temps? Est-ce qu'on attise la blessure, ou est-ce qu'on l'aide un petit peu à cicatriser?
Oui, c'est une bonne question. Ça a été un dilemme, mais Les personnes qu'on a rencontrées, on les a pas obligées à témoigner. On leur a expliqué notre sujet et on leur a demandé si elles voulaient en parler. Donc, celles qui ont accepté de le faire, j'imagine que c'est parce qu'elles s'estimaient prêtes à raconter ces souvenirs. Alors après, est-ce que ça a réveillé des choses ensuite, ça je ne sais pas, mais en tout cas au moment où on a réalisé les interviews, ça avait l'air de plutôt bien se passer.
Est-ce qu'il peut y avoir un effet thérapeutique, Toby Nathan, à énoncer ces choses, à les coucher sur le papier, ou alors il faut vraiment y aller à tâtons avec beaucoup de précautions?
Alors moi je peux vous dire clairement, non, ça n'a pas d'effet thérapeutique, là, c'est évident. L'effet thérapeutique qui s'obtient, c'est quand vous dites « raconte-moi ce qui t'est arrivé ». Et j'en ferai quelque chose. C'est-à-dire, je vais...
Ça va être un matériau de transformation.
C'est un matériel à partir duquel je vais travailler pour te soulager. Maintenant, s'il participe à une entreprise et en toute liberté, peut-être qu'ils y trouvent d'autres bénéfices, mais pas un bénéfice thérapeutique, un bénéfice intellectuel, un bénéfice de partage aussi. Il y a des gens qui veulent témoigner, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont soignés pour autant, hein.
François-Damien Bourgerie, du côté des soignants, peut-être qu'eux ont pris connaissance de votre travail et ont eu un retour, peut-être d'essayer d'aborder justement cette question dans sa globalité, pas simplement prendre une photo à un moment donné, mais d'avoir justement un regard sur ces différentes étapes. Ces morsures, elles sont en trois chapitres qui sont trois moments différents.
Oui, ce sont le départ, l'arrivée, le départ et le parcours vers la terre d'accueil, le parcours administratif et puis la suite, une fois qu'on est en France, des années après, est-ce qu'on peut se guérir de ces souffrances? Et les psychologues que nous avons rencontrés, ils rencontrent ces patients soit au moment du passage devant l'OFPRA et la CNDA, parce que c'est un moment vraiment charnière dans ce parcours, soit après. Un psychologue nous disait que les patients, pour savoir qui étaient leurs patients, il fallait consulter les journaux d'il y a 6 mois ou 1 an, parce que ce n'est pas le premier réflexe d'aller se faire soigner. L'urgence, c'est d'obtenir des papiers et de se stabiliser. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Je pense que vous êtes en train de me dire que la priorité, c'est l'administration, voilà, et le logement, la première nécessité. Le psychologique vient ensuite.
C'est ça.
Et les gens n'ont pas forcément la conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, de cette souffrance extrême qu'ils ont aussi amenée dans leur bagage, Toby Nathan.
Alors, si je vous donne mon avis, hein,
oui,
c'est-à-dire que moi j'en ai vu beaucoup, hein, des patients, j'en vois encore. Hein. Moi, ce qui me frappe, c'est que souvent la pathologie apparaît longtemps après être arrivée. Il y a ceux qui arrivent avec une pathologie parce que ils ont été torturés, ils ont été violentés, etc. Mais nombreux sont ceux qui ne tombent malades que parfois 10 ans après être arrivé, et que les choses reviennent, et c'est-à-dire que jamais rien n'est véritablement gommé si ça n'a pas été traité, si ça n'est pas devenu un matériau de la renaissance, quoi. Et ça, parfois, ça met très longtemps.
Ça prend du temps. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Comme promis, l'adresse pour retrouver cette enquête, un lien sera mis sur notre émission d'aujourd'hui. Et merci beaucoup, Toby Nathan. On s'excuse auprès de nos auditeurs qu'on n'a pas pu rejoindre au cours de l'émission. C'est toujours un petit peu frustrant.
Beaucoup, hein.
Mais on en fera une autre. On en fera une autre, Toby Nathan. À très bientôt sur l'antenne de RFI. Demain, nous allons parler de la guérison après un cancer pédiatrique. On se retrouve demain. Merci à tous.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.